Bonjour à tous. Si vous aimez la société de minuit et que vous voulez m'aider à pouvoir continuer à sortir des épisodes, sachez qu'en plus des étoiles et des commentaires qui aident beaucoup le podcast à se faire connaître, vous pouvez maintenant aussi m'aider financièrement sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si ça vous intéresse, je vous explique tout dans une vidéo sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand Marion est dans les parages, il se passe souvent des choses étranges. Surtout quand il s'agit d'objets électroniques. Longtemps amusée et étonnée de ce qui lui arrive, elle va vite se retrouver dans plusieurs situations effrayantes et va devoir demander de l'aide pour s'en sortir. Cette histoire s'intitule... Court-circuit, première partie.
C'est vrai que depuis toute petite, j'ai un peu une fascination pour le monde invisible. J'ai toujours fait énormément de rêves qui m'ont beaucoup perturbée. Alors c'est vrai que quand on est petit, on a tendance à croire que il y a des monstres sous le lit ou dans les armoires, beaucoup de cauchemars. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus que les autres enfants de mon âge, que ça a toujours été un peu pas normal de faire autant de rêves comme je pouvais en faire et de voir des choses que peut-être les autres ne voyaient pas ou se souvenaient pas. Mais bon, après, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mis côté toute mon enfance jusqu'à adolescente. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention parce que je me suis dit, après tout, c'est que des rêves, c'est que des choses qui se passent la nuit. Mes parents n'étaient pas forcément au courant, je leur expliquais des fois le lendemain « Oh bah tiens, j'ai rêvé de ça » et il y avait des fois, j'étais persuadée que ça s'était passé. Je me souviens qu'une fois, comme tous les enfants, la petite souris qui devait être passée, et que je me souviens d'avoir vu une grosse pièce, de l'avoir touchée, d'être debout dans ma chambre, mais éveillée, et d'avoir parlé avec quelqu'un d'un peu transparent, et je l'avais expliqué à mes parents, mais ils m'avaient dit « Mais non !» On t'a jamais amené autant d'argent, autant d'or sous ton oreiller, et puis il y a personne, Marion, qui a pu venir dans ton rêve, dans la nuit, qui était un peu transparent, invisible, et j'en étais persuadée. Et m'avait dit, mais non, Marion, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai des parents en plus qui sont très très cartésiens, surtout mon père. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à lui en parler. Je racontais mes rêves parce que souvent ça faisait énormément rire la famille, parce que j'ai des rêves parfois qui sont un peu loufoques. Ma mère, elle, disons qu'elle y croit un peu plus, même si elle est très cartésienne. Ma mère, elle travaille dans le milieu médical, donc on a toujours cette notion un peu de logique, de science. Mais elle a toujours cette lueur d'espoir que ça existe, parce qu'elle a perdu son frère, en fait, très jeune, et elle a des fois la sensation de le voir dans ses rêves, et voilà. Elle est quand même plus sensible à ça, et je pense que ça aide dans certains moments. Après, pour la petite histoire aussi, je sais que quand j'étais petite, il s'est passé déjà quelque chose d'un peu fou avec ma maman. Mais moi, je suis persuadée que ça a un lien avec qui je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore de ce monde, c'est-à-dire que je suis dans le ventre de ma maman. Je sais pas de combien de mois elle était enceinte de moi, mais c'était déjà bien avancé parce que c'était une période printemps-été, et moi je suis née en juillet, donc c'est vrai que la grossesse était déjà quand même bien à terme, bien entamée. Et ma maman avait pour habitude justement d'aller voir les voisins du palier, qui étaient un couple de personnes âgées, à qui elle allait chercher du pain, elle s'occupait d'eux parce qu'ils étaient un peu fâchés avec leur famille. Et en fait, mes parents étaient les seules personnes qu'ils côtoyaient. Et ma mère, ça lui tenait beaucoup à cœur. Elle continue de faire ça, et puis un seul jour, elle sait pas pourquoi, elle est pas passée les voir, ça arrive jamais, il y a eu un imprévu, elle y fait pas attention. Et le soir, elle a un mauvais pressentiment. Parce que il n'y a pas eu de contact, elle n'a pas entendu de bruit, elle dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle finit par en parler à mon père, qui dit « Non, mais t'inquiète pas, ça devrait aller. » Puis les jours passent, et ma mère, elle essaye de rendre visite à ces personnes, et elle n'arrive pas à rentrer dans l'appartement ou quoi que ce soit. Elle trouve ça bizarre, donc elle prend le réflexe d'appeler la police, en fait, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de grave qui est arrivé. Et il faut savoir que pendant tout ce temps-là, j'avais un chien. Mes parents avaient un gros chien, un berger allemand. Et en fait, il n'arrêtait pas de hurler en fait à la porte. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La police arrive du coup chez mes parents. Ils finissent par expliquer le peu de choses qu'ils savent finalement. Et puis, ils voient que le chien a un comportement assez étrange. Et ils demandent « Est-ce que le chien peut venir avec vous ?» Parce que c'est vrai qu'il a tendance à avoir un comportement spécial. On veut voir comment il réagit. Ça se trouve, il peut peut-être nous aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était peut-être au premier ou au deuxième étage de l'appartement, mais en fait, chaque personne qui habitait dans l'immeuble avait une cave au sous-sol. Et le chien se fonce en direction de la cave, et mes parents n'avaient pas été à la cave parce que ils étendaient leur linge dehors, il fait beau, on est en plein été. Et le chien, il fonce, et il peut pas avoir accès, le chien, directement à la cave parce que c'est quand même fermé. Donc la police enfonce la porte, procédure et tout ça. Donc mes parents, eux, ils restent dans l'appartement. Hein. Bien sûr, ils font pas face à la procédure. Et en fait, ils découvrent que le couple de personnes âgées s'est pendu dans leur cave ensemble parce qu'ils étaient tellement tristes, en fait, de pas avoir de lien avec leur famille, qu'ils voulaient plus continuer ainsi. Donc, mauvaise nouvelle. Vraiment, un gros drame qui s'est passé dans l'immeuble. Et la police revient vers mes parents, ils expliquent les faits calmement, mais ça veut dire que du coup, ma mère, elle est enceinte de moi, elle entend ça, et c'est la seule chose qu'elle a pu voir et entendre, et c'est tout. Elle peut que imaginer ce qui s'est passé, surtout que ma mère, faut savoir qu'elle est urgentiste. Donc elle a l'habitude de voir des choses comme ça, il lui arrive de voir des choses vraiment horribles dans sa vie. Et ça fait partie de son travail, et je pense qu'elle aurait voulu voir ça pour se rendre compte, et parce qu'elle aurait voulu les aider, en fait. Donc gros trauma du côté de ma mère, et ça me fait bizarre d'en parler, j'ai la voix qui tremble un peu parce que je me mets vraiment à sa place. « Donc bah, après, bah, la vie continue pour mes parents quand même. Hein. Je finis par venir au monde, hein, dans la logique des choses. Et puis, bah, je grandis. Et à l'âge où bah, je suis capable de tenir sur mes deux petites jambes, je fais quelque chose d'hyper étrange qui fait énormément peur à ma mère. C'est que tous mes poupées, mes jouets, mes peluches, je les accroche à une corde et je les traîne par terre et je les pends et je les accroche au poignet des portes un peu partout. Je suis mes parents et voilà, dans la nuit, ça m'arrive de mettre ça sur la poignée de leur porte de chambre, dans la salle de bain. Et ma mère, ça commence vraiment à la faire flipper. Mon père, il fait « Oh, c'est qu'une enfant, laisse-la tranquille, ça n'a pas de rapport. » Sauf que ma mère, elle en peut plus, en fait. Ça lui fait trop peur. Elle fait « Mais mon enfant, elle a un problème. Ma fille, elle est complètement tarée. Il y a quelque chose qui va pas. » Elle décide de m'emmener chez le psychiatre. Et il lui dit « Mais en fait, le trauma que ma mère a eu ce jour-là a ricoché, en fait, en moi, quand elle était enceinte de moi. Et en fait, moi, je répète ce trauma-là schématiquement, puisque... je sais pas d'où ça vient, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je le répète inconsciemment parce qu'en fait, il vient de ma mère. Sauf que c'est vrai qu'avec le temps, comme je disais, je suis persuadée que ça a participé aussi à ce que je peux voir aujourd'hui, qu'il n'y a pas que ce fait psychologique qui rentre en jeu, parce que j'ai pas de souvenir vraiment de moi de faire ça, mais je me souviens parfaitement de l'appartement et je me dis bah peut-être que je voyais des choses que je pouvais pas exprimer à l'époque et que ça participait à ça. Donc le psychologue dit à ma mère, tout simplement pour qu'elle arrête, il faut que vous lui expliquiez ce qui s'est passé. Ma mère a bon, mais c'est quand même quelque chose de spécial et tout ça. Et le psychologue dit, faites-moi confiance. Donc je me retrouve sur le canapé toute petite avec ma maman devant qui me dit, bah écoute Marion, quand j'étais enceinte de toi, il s'est passé ça. Elle raconte l'histoire et du jour au lendemain, j'ai arrêté de le faire. Après, j'ai toujours cru que j'avais quelque chose. Enfin, quand on est petit, on s'imagine souvent qu'on a des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'en étais presque persuadée. J'écrivais beaucoup, j'écrivais des histoires sur des personnes qui venaient me voir. Mais en fait, c'est maintenant que je m'en rends compte. Mais pour moi, c'était « Oh, bah Marion, t'es un peu écrivaine, t'es créative, c'est ton petit monde à toi. » Et ça s'arrête là, en fait. Donc ma primaire, on va dire, rien de particulier. Et puis en fait, on va dire que ça commence un peu au lycée. Au lycée, déjà, je pars de chez moi, puisque je veux faire une formation qui n'existe pas à côté de chez mes parents, donc internat, vivre ensemble, tout ça. Et puis en fait, je m'éclate dans ce que je fais au lycée. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'ai un problème avec tout ce qui est ordinateur, imprimante, téléphone. Je dérègle un peu tout en fait. Tellement que je dérègle les choses, le matériel électronique au lycée, on m'interdit des fois, en fonction des épreuves, de ne pas aller à l'imprimante parce que sinon, on sait qu'il va y avoir un problème et que ça passe pas. Et des fois, juste la toucher ou passer devant, ça fait un bruit, soit un bruit étrange, soit je casse la machine d'une manière un peu bizarre parce que soit elle n'imprime plus alors qu'elle a de l'encre. Des fois, c'est même les logiciels sur les ordinateurs, ils se retournent. Et tout est à l'envers. En fait, j'ai tendance à tout mettre à l'envers ou voilà. Donc, en général, je dis non, mais me faites pas toucher vos ordinateurs ou vos téléphones parce que il y a le risque que je puisse tout dérégler. En plus, faut savoir que chez mes parents, pendant un moment, j'avais pas trop de téléphone portable, j'avais pas de PC perso. L'ordi fixe, c'était vraiment pour mes parents, surtout pour mon père, pour qu'il puisse travailler. Donc, en fait, j'avais pas l'habitude, déjà, de forcément manipuler ça quotidiennement. Je me suis dit, Marion, c'est juste parce que t'as pas l'habitude, tu sais pas faire, c'est la coïncidence, c'est la faute, t'as pas de chance. Faut savoir que vraiment, j'ai beaucoup mis sur Marion, t'as le karma, t'as la faute, t'as pas de chance. Et ça a été, mais tout le temps. Des fois, même encore aujourd'hui, je le dis. C'est ma façon de me dire, non, mais c'est rien. De me rassurer et de me voiler la face aussi, de me dire, mais non, ça, c'est pas ça. En fait, faut dire qu'à l'époque, j'y pense même pas. Que j'ai peut-être une réception avec ce monde-là, ce monde invisible, ses capacités. Pour moi, c'est impossible, ça n'existe pas. Je suis une très grande fan de films d'horreur, donc pour moi, ça me fait un peu peur, mais je me dis, oh, mais non, ça n'existe pas, c'est vraiment du scénario. Je suis vraiment dans, je me voile la face et j'ai vraiment pas de chance. C'est une manière de me protéger et puis de pas donner d'explications sur ce qui se passe parce que, de toute façon, je ne peux pas en donner, en fait. Donc, en seconde, je me dis vraiment, c'est le hasard, Marion, tu sais pas faire. Après, il y a la première, et là, je me dis, en première, quand même, Marion, ça fait un an, Tu sais quand même maîtriser l'outil informatique et les logiciels, et ça finit toujours par foirer. À chaque fois que j'ai un problème, on vient me voir, on me dit « Non, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas normal. » Alors que j'ai des amis qui sont à côté de moi qui me disent « Mais non, mais elle a fait comme nous, c'est pas normal. » Donc ça vient s'empirer. Je me dis « Non, mais il y a quand même quelque chose. » Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'étrange, parce que je finis par avoir mon appartement en terminale avec une amie, et je fais la rencontre d'une autre amie qui, elle, a une maman qui tire les cartes. Et elle est très douée à ce sujet, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a un talent fou pour ça, d'énormes capacités. Et du coup, cette fille de cette madame tireuse de cartes nous dit « Oh, mais si vous êtes intéressée par ça, il y a l'oracle de Béline, vous pouvez essayer. » Voilà. Donc c'était plus sous l'aspect curieux et du jeu, en mode « on va essayer ». Donc mon amie, c'était ma coloc, a acheté un oracle, c'était pas le mien. Mais on tirait ensemble, c'est-à-dire qu'on choisissait et on s'en sortait vraiment bien. Et je pense que c'est là où je me suis intéressée un peu à ce monde-là, en fait. Donc on va dire que c'est ma première immersion dans ce domaine-là, dans cet univers, grâce aux cartes, en fait. Et après, en terminale, du coup, je suis aussi allée voir la voisine de mes parents, en fait, qui a des dons et qui est guérisseuse. C'est le genre de personne qu'on a tous dans nos petits villages de campagne qui soigne les verrues, des enfants qui en ont avec une pomme, un bout de cheveux, qui peut apaiser les douleurs de feu, les brûlures, tout ça. Donc je lui dis « Mais écoute, j'ai besoin de toi parce que je comprends pas pourquoi je fais tout sauter. » Elle me dit « Ok », je lui présente mes mains, elle me dit « Mais tu fais de l'électromagnétisme. » Elle m'a expliqué ce que c'était, elle m'a dit « C'est qu'en fait ton énergie, c'est pas facile à expliquer, mais mon énergie, entre guillemets, on va dire, pour simplifier, n'est pas compatible avec ça. » Et du coup, elle se transfère dans tout ça. Et c'est pour ça qu'avec mon électromagnétisme, je dérègle tout ça. Donc ça peut être la Wi-Fi, les imprimantes, les portables, les PC. Voilà. Et là, j'ai dit « Ah oui, ça existe, ça !» Et ça aussi, c'est une première étape dans ce monde-là, en me disant « Ah, mais en fait, ça s'explique. » Bon, je comprenais pas forcément le pourquoi du comment, mais j'étais rassurée de me dire « Ah, mais en fait, c'est des choses qui existent, je peux mettre un mot dessus. » Alors, je peux peut-être pas, ce que je lui ai demandé, comment je pouvais maîtriser cet électromagnétisme, je peux pas. Voilà, c'est, à part contrôler mon énergie comme je pourrais pas l'empêcher. Elle m'a d'ailleurs conseillé de porter une pierre qui s'appelle une shungite, qui est de la famille des charbons et qui m'a beaucoup aidée, en fait, parce que ça a diminué pour beaucoup la cata que je pouvais, en fait, endommager à tous ces supports informatiques. Et c'est vrai que des fois, quand j'avais les ordinateurs de mes amis qui chauffaient trop, je me mettais à côté avec ma pierre et ça se calmait. Et dès que je partais, l'ordinateur refaisait un bruit, en fait, d'avion qui décollait. Enfin voilà, il y avait ce truc, en fait, on finissait par y croire parce que il y avait des arguments qui étaient concrets, qui étaient là. Et ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, t'es pas folle en partie, t'es pas juste madame pas de chance, c'est rassurant. Je me souviens qu'en BTS, c'était une grande salle en fait de cours. On n'est pas beaucoup, on est une promo de 9 ou 10. Donc vraiment, grande salle pour pas beaucoup de personnes. On a une partie vraiment cours avec nos tables chacun. Et en fait, dans cette même pièce, un peu plus loin, il y a plein de postes d'ordinateurs, tout ça pour qu'on puisse travailler. Tout le monde est assis en cours et moi, j'étais du côté... des postes d'ordi, j'étais la seule, et il y a une professeure qui rentre pour prendre le relais, et donc je me lève pour me rasseoir à mon poste de cours normal et quitter ce poste de travail. Et quand je me lève, je passe devant une tour d'ordinateur, et là, rien ne se passe, et je récupère un bout de papier qui est posé dessus, parce que je devais le récupérer pour une amie, je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, je finis par toucher cette tour. Là, je me prends, comme à mon habitude, un petit court-circuit, voilà, maintenant c'est quotidien, et une alarme incendie s'installe dans la tour d'ordinateur. Mais quand je dis une alarme, c'est que c'est un bruit insoutenable, ça fait un son de dingue, et on n'explique pas pourquoi. Et puis la prof commence à s'énerver en me disant « Marion, arrête-moi ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis comme bruit ?» Moi je dis « Mais je sais pas ce que j'ai fait. » Elle me fait « Mais si, t'as forcément touché quelque chose. » Je fais « Non, j'ai juste mis ma main sur la tour d'ordi et ça veut pas s'arrêter. » Elle se met à clignoter et vraiment ça fait le bruit d'une alarme incendie. C'est pas un bruit qui vient normalement d'un ordinateur et c'est vraiment pas l'alarme incendie du bâtiment parce que pendant un moment on s'est posé la question « Est-ce que c'est pas la coïncidence, je touche la tour et il y a l'alarme incendie ?» Et non, parce qu'on a vérifié, il n'y a aucune autre classe qui bouge. Quand tu vas dans les couloirs, il n'y a rien qui sonne. Et vraiment, moi, je suis à côté, je l'entends que c'est la tour qui sonne tellement ça me nique les oreilles. Je sens que c'est la tour, que c'est pas une alarme incendie du bâtiment. Et tout le monde me regarde bizarrement avec des gros yeux. Je vois un peu de peur dans les yeux de quelques personnes parce qu'ils ont vu que j'avais rien fait et que j'avais juste touché. Et même, il y a des personnes qui s'y connaissent dans ce dôme, enfin, qui sont à fond là-dessus dans la classe et qui me font « Mais comment t'as fait pour faire ça ?» Enfin, même eux ne savaient pas que c'était possible. Et du coup, bah, je me fais vraiment rouspéter par ma professeure qui finit par en avoir marre et je lui explique « Mais je n'y suis pour rien, je n'ai rien touché. » Je me concentre et je retouche la tour. Plus rien. Je me rassois et bah, mes copines me disent « Mais Marion, faut que t'arrêtes avec de toucher tous les ordis, tu vas finir par faire exploser quelque chose un jour. » Enfin voilà, elles étaient au courant, donc ça leur a paru normal, ça les a énormément étonnées, mais sur le coup, elles se sont dit « Bon, bah c'est encore un coup de Marion qui nous fait exploser ou dérégler les choses. » Mais c'est vrai que sur le coup, pour moi, c'était un peu, je me suis sentie un peu honteuse de me dire « Mais en fait, j'y suis pour rien, je sais que c'est moi, mais enfin c'est pas moi qui gère, entre guillemets. » Donc ça m'a pas mal freinée là-dessus, à cette période-là. Je sais que j'étais beaucoup moins attractive à mes sens. Pour moi, j'appelle ça, c'est mes sens, parce que c'est plus que juste du toucher et de l'odorat ou de l'ouïe. C'est vraiment des sens qui sont vraiment à part. Et j'y ai prêté beaucoup moins attention parce que je me suis dit, mais il faut que ça se calme, en fait. Donc bah j'ai été énormément dans le déni encore. J'ai refermé les yeux. Il y a eu une pause de 2 ans entre... en fait, dès qu'il y a eu la période du Covid, et je suis retournée chez mes parents. J'avais envie de m'acheter un jeu de tarot, mais je trouvais rien qui m'attirait en boutique. J'étais pas attirée par un jeu de cartes, donc j'ai arrêté. Et après, il y a cette fameuse dame qui m'a initiée un peu aux cartes, la maman d'une amie, qui m'a dit « Mais si t'as pas de jeu de cartes, tu peux le faire sur ton téléphone. » Et en fait, sur le téléphone, il y a un site qui s'appelle le jeu du le petit normand, ou je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, tu peux faire un tirage en ligne et ça te fait une description... directement, et je m'amusais beaucoup à faire ça, en fait. C'est gratuit, tout ça, donc je le faisais beaucoup. Donc je continuais à faire quand même du tirage de cartes, même si j'avais pas mon propre oracle, et ça, je continuais de le faire. Après, il s'est quand même passé quelque chose qui m'a marqué pendant ces 2 ans sur Nantes. Il se passe que ma sœur, elle se fait harceler, en fait, par un ex à elle, et il la harcèle vraiment à tel point que j'ai peur de perdre ma sœur. Elle a des discours en me disant « Marion, c'est plus facile de dormir que de vivre, ça allait pas du tout. » Et moi, je suis loin d'elle et je sais pas que je peux rien faire parce que j'ai été là pour elle tout le temps jusqu'au bout, mais je suis pas présente. Un jour, elle me dit vraiment que ça va pas et moi, j'ai trop peur. Donc bah, je finis par en parler à mes parents. Mes parents enchaînent avec les procédures, entre guillemets, pour que ça aille mieux. Ils prennent les choses en charge et ça, franchement, ils ont vraiment fait les choses correctement. Et ça, je les remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parents qui prennent ça à la légère et ça n'a pas du tout été le cas de mon père et de ma mère. Ça a beaucoup aidé ma sœur. Sauf que bah, même si des mois après, bon, entre guillemets, c'est plus trop d'actualité parce que bah, les parents gèrent la chose et tout, bah, la santé mentale de ma sœur, elle reste la même. Et ça va toujours pas bien, et elle se finit toujours par se confier à moi en me disant « Mais non, mais ça va pas, je veux dormir, j'y arrive pas, je veux dormir, je veux faire que dormir, je veux même plus me réveiller. » Enfin, c'est des choses qui sont un peu choquantes, surtout quand t'es loin et que tu peux rien faire. C'est très frustrant, et ça fait très très peur. Et un jour, je suis à l'école. Je sais pas pourquoi, je rentre pas chez moi, je vais en ville, je vais dans une boutique, et j'achète 2 médaillons. J'achète un médaillon de Saint-Benoît. Donc moi, je me le prends en doré parce que je porte des bijoux en doré et ma sœur, elle porte de l'argent. Donc je lui prends en argent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je rentre chez moi, j'ai ces 2 médaillons-là. Je les mets un chacun dans ma main. Et je ferme les yeux, je ferme le poing et je me dis, je demande en fait, est-ce qu'on soit lié par ce bijou ? Je demande que ce que ressent ma sœur, je veux le ressentir. Et inversement, qu'on soit connecté et qu'elle sente ma présence tout le temps quand elle en aura besoin. Qu'elle se sente bien en fait, que ce soit sa sécurité. Et ça, je le pense tellement fort. Et puis, bah, ça tombait bien parce que le week-end d'après, je suis rentrée chez mes parents et j'ai pu la voir. Je lui ai donné, je lui ai juste dit, personne ne le touche, tu le portes, et c'est tout. Dans les jours qui suivent, du coup, bah, je rentre dans mon appartement à Nantes, je refais ma vie, tout ça. Et ma sœur me dit, oh, il m'est arrivé ça aujourd'hui, à telle heure. Et moi, il m'est arrivé la même chose. On a plein de similitudes comme ça où en fait il nous arrive la même chose en même temps. Elle se sent mieux Et moi, je sais quand elle va pas bien. Donc, je lui envoie un message. Elle me dit, oh, comment tu sais que je suis en train de pleurer? Je fais, je le sais, je pleure aussi. Et j'ai aucune raison de pleurer. Et on a cette connexion qui est encore plus forte avec les médaillons. Et je sais que elle, ça l'a aidée. Et c'est venu naturellement, en fait. J'étais pas consciente que j'avais des capacités, mais c'est pareil, instinctif. Je me dis, elle a besoin de ça. Elle a besoin de moi, elle a besoin de ça. Et depuis, on l'a toujours et on le porte toujours toutes les deux. Je sais, avec le recul, que si je l'ai fait, c'était instinctif, comme je te dis, et que c'était ma médiumité qui parlait et que j'avais besoin de la guérir d'une certaine manière. Mais de mon côté, à l'époque, sur le moment, je me suis juste dit, non, mais c'est un effet placebo, mais je vais pas lui dire à ma sœur. Je vais juste, voilà. Dans ma tête, c'est un effet placebo, et puis ça lui fera plaisir d'avoir un petit bijou, un petit cadeau, ça peut toujours rebooster. Alors que, honnêtement, juste un petit bijou, ça pouvait pas améliorer sa santé autant, en fait. Et jusqu'en juillet, du coup, je pars vivre encore ailleurs, nouvel appartement, et puis j'ai un chat. Donc mon chat est aussi un nouvel appartement, beaucoup de stress, et au début, c'est vrai que le chat n'est pas très bien, parce que bah c'est nouveau. Et c'est vrai que je me sens pas forcément chez moi, et je sens que c'est pas le sentiment de... parce que c'est nouveau. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, je fais pas attention, il y a ma sœur, on en profite, en plus il fait beau, donc on va beaucoup vers Arcachon, on sort, enfin voilà, on profite vraiment de l'été. Et puis au mois d'août, j'ai d'autres personnes qui viennent et là je commence à faire des grosses crises d'angoisse. Je commence à plus supporter les gens autour de moi, même si je les adore, si c'est des amis qui viennent, parce qu'on a reçu du coup beaucoup d'amis tout l'été, bah dû au fait que bah on a déménagé, donc il y a des personnes qui sont venues nous aider, on a reçu du monde, on a fait pas mal la fête, normal, c'est l'été. Et vraiment, je faisais des crises d'angoisse et je voulais pas rentrer à la maison. Plus on était à l'extérieur, mieux je me portais. Je me disais, non, mais c'est participe peut-être une sorte de dépression, en fait, du fait que ben, j'ai quitté l'école, j'ai pas encore d'emploi stable, c'est nouveau, j'ai pas encore d'amis fixes sur la région. Enfin, vraiment, tu vois, encore une fois, je me mets des barrières, je me mets des excuses, sauf qu'en fait, je vis pas seule, je vis avec mon copain qui, lui aussi, se sent pas très bien, et ça, je peux pas, là, donner d'excuses. Je peux plus, c'est plus que moi qui vis la chose. On est deux maintenant. Alors moi, je le vis d'une autre manière parce que j'ai vraiment des grosses crises d'angoisse. Il y a des soirs, je peux pas respirer. C'est-à-dire que je m'endors la nuit. Et là, j'ai une sensation d'un poids qui m'appuie, mais vraiment sur le torse. Mais d'une force tellement importante que genre, je n'arrive pas à respirer. Donc en plus de la crise d'angoisse que je peux faire de temps en temps que je n'avais jamais faite, là, j'ai ça en plus, ce sentiment-là. Et je finis par en parler à ma sœur, qui est quand même là pas mal de temps tout l'été chez moi. Et bah elle le voit que je fais des crises d'angoisse. Et elle savait pas de ce que je ressentais la nuit. Donc je finis par lui dire, est-ce que tu ressens des choses la nuit? Elle me décrit la même chose. Alors elle le vit de manière beaucoup plus légère, mais elle a cette sensation-là. Je fais, ok, d'accord, bon. Donc ça vient vraiment pas que de moi. Là, je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai une amie aussi qui est venue vivre un mois parce que elle cherchait un appartement encore sur Bordeaux et du coup elle est obligée de vivre avec nous hein. Donc elle a vécu aussi ces fameuses nuits un peu d'angoisse, mais je lui avais pas dit, j'avais juste dit écoute, je sais qu'il y a une énergie un peu étrange dans l'appartement, si la nuit tu ressens quelque chose tu me diras, mais bon normalement ça devrait aller. J'ai essayé de la rassurer. Et puis les jours passent, elle me dit c'est vrai que la nuit quand je m'endors j'ai de la sensation, j'arrive plus à respirer, je me sens oppressée, ça m'appuie sur le torse, ça va pas. Et là je dis ça fait quand même 3 personnes qui me le disent, enfin faut arrêter d'être dans le déni Marion, il y a quelque chose qui va pas. Avec mon copain c'est pareil, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais pris la tête, enfin on n'est pas des personnes qui ont tendance à se crier dessus, s'engueuler, vraiment. Ça nous est jamais arrivé, on a déjà vécu ensemble en plus, donc c'est pas le fait de la vie ensemble, ça marche un peu moins bien. Là, on a cette sensation de haine l'un envers l'autre qui n'avait pas lieu d'être. On se criait tout le temps dessus et ça n'allait pas. Et on se le disait à chaque fin de dispute, mais pourquoi on se crie dessus? Enfin, déjà, pourquoi on s'engueule? Pourquoi on crie? Parce qu'on se hurle jamais dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et mon copain me disait souvent, mais il y a quelque chose qui va pas, ça vient pas de nous. Et pourtant, c'est quelqu'un d'hyper cartésien, vraiment, toutes ces choses-là, en fait, c'est tant qu'il le vit pas, ça n'existe pas, quoi. Et pourtant, là, il a ce discours de, il y a quelque chose qui nous appartient pas, il y a quelque chose d'étrange, je sais pas, pas comme si l'appartement, il était hanté, mais il y a quelque chose qui va pas. Et ça, pour qu'il me dise ça, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le sentiment que j'ai, c'est que on n'était pas chez nous, en fait. Et puis, par exemple, je suis dans la salle de bain, et souvent, ça m'arrivait quand j'étais toute seule, parce que du coup, je travaillais pas. Mon copain, lui, bah, il est au travail, donc je me retrouve seule à l'appartement, la journée, même des fois la nuit. Et je suis, voilà, je fais ma petite vie dans la salle de bain, et là, alors c'est pas que j'entends, parce que j'entendais pas, par exemple, des choses bouger, il y avait rien qui se déplaçait, mais j'avais cette impression qu'il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine dans ma cuisine. Alors que j'avais pas la pièce en visu, mais j'avais vraiment cette impression-là, et j'étais pas bien. Donc je restais dans la salle de bain hyper longtemps, parce que j'avais pas envie de voir des choses ou des choses similaires à ça. Quand je parle d'impression, c'est vraiment une sensation, c'est-à-dire que quand on marche dans la rue et qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous suit, on le sait. C'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus fort. C'est vraiment un ressenti, je pense, d'énergie. Et je pense que j'étais... Bah, du coup, mon copain n'avait pas ça parce que bah moi, je pouvais ressentir ça, en fait. Et beaucoup plus fort que lui. Parce que lui, ça lui est arrivé de se sentir un peu oppressé, mais ça s'arrêtait là. J'étais capable, moi, de dire « Ok, il y a quelqu'un dans la cuisine qui fait à manger tranquillou et je me sens pas bien. » Enfin, je suis mal à l'aise, donc il y a eu ça. La nuit, des fois, quand je me lève pour aller prendre un verre d'eau, et du coup, je suis amenée à aller dans la cuisine qui est ouverte au salon. Et là, je ne vois pas, je n'entends pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui dort sur mon canapé. C'est hyper étrange. Je suis là, mais pourquoi il y a quelqu'un ? Pourquoi j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui dort sur le canapé ? Et pourtant, il n'y a pas de bruit, je vois rien, il n'y a rien qui bouge, mais je le sais qu'il y a quelqu'un qui dort sur mon canapé. Et c'est comme si j'arrivais à le matérialiser juste avec des énergies, comme si je pouvais le sentir, comme si je sentais qu'il y avait un amas d'énergie présent ici qui avait comme silhouette un corps. Du coup, je savais que c'était quelqu'un. Je pense que je peux l'expliquer comme ça pour imaginer comme si je ressentais un amas d'énergie et avec toute cette énergie, ça forme quelqu'un. Et du coup, je sais qu'il y a quelqu'un. C'est comme ça que ça se passait, en fait. Il y a eu d'autres épisodes, donc il y a ces épisodes-là où je sentais la présence par une énergie très forte. Mais par exemple, la nuit, c'est arrivé que je suis dans mon lit, je suis allongée entre deux rêves, et puis je finis par ouvrir les yeux parce que je me réveille, mais il fait totalement noir. Il y a un tout petit peu de lumière qui traverse à travers la porte, et je vois que mon chat pousse la porte et finit par arriver près de moi au niveau du lit. Et puis là, je vois une petite main transparente qui joue avec la queue de mon chat. C'est-à-dire que la main, elle est un peu en fumée blanche, elle fait le tour avec son doigt de la queue du chat comme ça, puis elle finit par tirer la queue du chat et le chat finit par aller en arrière, en fait. Le chat fait un glisse en arrière. Et là, automatiquement, qu'est-ce que je fais ? Je ferme les yeux et je me rendors tout de suite. J'ai pas de souvenir de le reste de la nuit. Là, c'est la première fois que je vois quelque chose sans que ce soit une énergie. Là, c'est vraiment ma vue qui a pris le dessus, où j'ai vraiment perçu une main en vapeur, blanche, très claire, jouer tranquillou avec la queue de mon chat pour finir par tirer mon chat avec sa queue. Et mon chat, bah, je l'ai vraiment vu glisser sur le sol. Et puis j'ai même vu mon chat se retourner pour mettre un petit coup de patte en mode « Arrête, j'ai pas envie, lâche-moi ». Et il faut savoir que le comportement de mon chat aussi était très étrange à l'appartement tout le long parce que mon chat grattait tout le temps aux portes, miaulait. Enfin, un comportement qu'elle n'avait jamais eu, très étrange. Et je pense que c'est parce qu'il faut savoir que les chats, c'est des animaux qui sont très sensibles à ça. Je pense qu'elle le voyait depuis le début, mais bah forcément, on le mettait sur le fait de autre chose. On se disait, c'est le déménagement, elle a pas apprécié. Il y a eu de ça aussi, mais enfin là, je l'ai vu ce soir-là, ce qui se passait. Ce que elle pouvait voir. J'avais pas envie d'être face à ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai vu pourtant, puis même, c'est pas évident d'en parler. Je sais que mon copain, lui, il me disait quand même qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais je pouvais pas lui dire des choses comme ça. Je pouvais pas le partager, donc ne pouvant pas le partager, ne pas en parler, pas envie non plus, bah, que ça soit par exemple un sujet de crise encore, parce que ça continuait toujours, bah, en fait, j'ai rien dit, j'ai gardé pour moi. De temps en temps, au début, je disais un petit peu c'est pas normal, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui dormait sur le canapé, et tout de suite, ça se braquait et c'était pas évident, donc j'ai vite arrêté en fait de le faire, je subissais tout simplement et c'était fini. Sauf qu'à un moment donné, je fatiguais trop parce que je pense que tous mes sens de médiumité, ils étaient mal gérés et j'étais tout le temps confrontée à ça constamment et c'était plus possible, à tel point que je craque. On essaye du coup de vouloir changer d'appartement alors qu'on n'a pas les fonds pour, mais on se dit non mais faut qu'on quitte, faut qu'on parte d'ici en fait. On est arrivé à un point où c'est plus supportable, C'est vraiment, ce n'est plus vivable qu'on se dit il faut qu'on déménage pour qu'on arrête de se crier dessus et de vivre ça. Je cherche, il fait pareil, j'ai des visites d'appartements, j'ai des pistes, et tout va bien, et au dernier moment on nous dit « Ah bah non, en fait on vous prend pas ». Et je pique des crises et je finis par leur hurler dessus à ces personnes que je pense vivent chez nous. Et je leur finis par leur dire « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas notre bonheur, mon bonheur? Vous voulez m'épuiser? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je commence à parler et à hurler toute seule comme ça et à pleurer. Et ça me rend triste, je rentre dans une phase où vraiment c'est eux qui gagnent. Et je suis pas bien. Et pourtant à l'époque je dis eux, mais je sais même pas exactement ce que c'est. Mais je suis quand même persuadée qu'il y a des êtres qui sont chez moi. J'en suis persuadée. Et je dis des parce que je suis sûre qu'il n'y a pas qu'une personne. Ça, ça a duré de juillet 2022 jusqu'à janvier 2023. La période de novembre-Noël, elle a été beaucoup plus clémente parce que j'ai trouvé un travail en attendant, donc j'étais moins souvent à la maison. Et puis on était un peu dans une ambiance « c'est Noël » et on adore. Donc du coup, on fermait un peu plus les yeux et avec le recul, je me dis que bah, peut-être même ces choses se sont dit « non, bon, c'est les fêtes, on va les laisser tranquilles ». Mais il y avait quand même des épisodes. Moi, j'avais toujours cette sensation d'être regardée, qu'on passait derrière moi, cette sensation de courant d'air, souvent aussi. Je l'avais toujours, mais c'était plus OK. En fait, j'en avais marre de me batailler, je pense. J'étais moins souvent à l'appartement, donc bah, je pense que ça a beaucoup joué. Mais oui, ça a duré jusqu'à de juillet jusqu'à janvier. Et justement, au mois d'octobre, j'ai une amie qui me dit « Ah, oh, mais... Enfin, ça fait longtemps qu'elle me le dit. Cette amie, elle me dit « Marion, t'as toujours quand même des petits trucs bizarres qui t'arrivent. Faudrait que tu contactes une médium que je suis depuis longtemps. Elle est trop forte. Je suis sûre qu'elle pourrait t'aider. » Et je dis « Bon, bah d'accord, peut-être, je vais essayer. » J'oublie. Encore une fois, on ferme le sujet là-dessus, on met le dossier de côté. Et bah, quand même, au mois d'octobre, genre quelques jours plus tard, je me dis « Non, faut que je le fasse. » Parce qu'il y a un jour, justement, où je subis et j'en peux plus, je suis en crise toute seule. Ça va pas. Je prends mon téléphone, j'envoie un message à cette médium. D'ailleurs, je l'embrasse parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une amie, elle m'aide beaucoup. Mais sur le coup, on se connaissait pas. Je lui envoie un message, je dis « Écoute, ça va pas, j'ai besoin de toi, je suis fatiguée, il y a des choses qui se passent, je contrôle rien, j'ai besoin de contrôler parce que sinon, je vais pas pouvoir continuer à vivre comme ça chez moi. » Donc elle comprend direct, elle me dit « D'accord. » Elle commence un peu à me dire des choses. Et là, je me dis, oulala, elle est quand même très très forte. Ça commence à me faire peur, d'accord, c'est pas grave. Et elle me conseille de prendre rendez-vous avec elle pour creuser le sujet et tout ça. Premier rendez-vous, on le prend. Donc ça devait être pareil, octobre-novembre. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu des travaux chez elle, plus d'internet, plus rien. Donc premier rendez-vous, loupé. C'est pas grave, on prend un deuxième rendez-vous. Donc pendant la période où je travaille, et là le travail me dit « Ah mais non, cet après-midi il faut absolument que tu viennes. » Donc ben, deuxième rendez-vous loupé, et je me dis « Non mais c'est pas vrai, je peux plus attendre, je suis vraiment en détresse en fait. » Je me dis « Ah non mais déjà que la première fois ça n'a pas pu arriver, la deuxième fois rebolote, enfin j'en ai vraiment besoin, il faut que j'arrive à gérer ça, on peut plus vivre comme ça. » Et là arrive le mois de janvier, on est aux alentours du 10 janvier, et j'ai rendez-vous avec cette personne. Et là, je me sens, ça y est, ça se fait, je vois l'appel, je suis trop heureuse. On parle et elle me pose des questions, elle fait ce rendez-vous habituel et elle m'explique qu'en fait, déjà, si dans ma vie j'ai eu ces choses-là, c'est parce qu'en fait, je suis médium. Et que ça, c'est depuis toute petite, mais que bah, dans le déni, à cause de la peur. Voilà, donc elle finit par m'expliquer comment gérer mon énergie, comment me protéger, qu'est-ce que ça veut dire être médium. Elle m'explique que être médium, c'est être en fait un messager. Le messager entre notre monde à nous, sur Terre, et le monde invisible. Donc on peut l'interpréter par plein de choses, ça peut être l'au-delà, ça peut être en fonction des croyances, mais en tout cas, c'est un messager entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'on dit médium, c'est le milieu. On est le milieu de quelque chose, récepteur, on reçoit et on doit renvoyer quelque chose. C'est ça, en fait, un peu être médium. Ah, ma première réaction quand on m'a dit ça, c'est bête, hein, mais j'ai rigolé. J'ai fait, mais non, non mais tu déconnes, je crois, là. Ah bon, je prenais pas du tout ça au sérieux parce que ça m'a fait sourire. Bah, je sais pas, quand on dit médium aujourd'hui, on pense à plein de choses. Je sais pas, mesmer, toutes les choses comme ça qui passent à la télé. On pense show télévisé. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, bah non, mais quand même. Enfin, je sais pas, c'est sérieux ce que t'es en train de me dire. Enfin, vraiment. Et puis, bah, c'était vraiment amené avec de l'humour, de la joie, du sourire. Donc, c'est vrai que c'était amusant d'entendre ça. Mais vraiment, ma réaction, ça a été. MDR, bon, c'est très drôle ce que t'es en train de me dire, mais en même temps c'est très vrai, donc ça a été ma première réaction face à ça, quoi. Du coup, le rendez-vous passe, elle me conseille plein de choses, m'explique plein de choses, le rendez-vous c'était 2 heures, donc là on a entamé la première heure. Et puis, en fait, le rendez-vous il était pas forcément pour le sujet de ce qui se passait chez moi, il était vraiment pour que moi je maîtrise. Le but c'était pas que je dise, bon bah il se passe ça chez moi, qu'est-ce qu'on fait, le but c'est vraiment... Marion, qui tu es, pourquoi tu vis ça, et le régler en fait. Parce que, encore une fois, c'est moi le problème, c'est moi qui vis des choses, c'est moi qui ferme le sujet sur ça, donc j'étais vraiment là pour ça. Et puis à un moment donné, j'entame le sujet de la maison en général, comme quoi je m'y sens pas bien et je demande des explications. Et puis la discussion en fait commence à s'élargir, et là je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui va pas, je sens quelque chose de lourd qui est derrière moi, je me sens très mal à l'aise, pas angoissée, mais il y a un truc qui cloche. Je continue de parler, je fais comme s'il se passait rien, hein, comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes de dire non, 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 il y a pas ça, ça n'existe pas. Puis elle voit bien que ça ne va pas, et elle me dit ça va, et je commence à dire ben, je sais pas trop, et je commence à évoquer le sujet. Je lui explique que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est chez moi, je suis sûre que c'est pas quelque chose de malveillant. Parce que même s'ils me font sentir de l'angoisse, je sais qu'ils sont pas méchants parce que, tu vois, ils vont pas me casser des objets, ils viennent pas me torturer la nuit, enfin... En fait, ils sont juste là. Ils me veulent pas de mal, je sens qu'ils me veulent pas de mal, tu vois, enfin sinon, pourquoi je les sentirais en train de faire leur cuisine, tranquille, dans ma cuisine, ou en train de dormir. Je pense que sinon, j'aurais eu d'autres visions. Donc je précise vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit méchant, et je me rends même pas compte que je suis en train de dire ça. Si je prends du recul en disant que oui, ils sont pas méchants, ils sont gentils, rien que dire ça à l'époque où j'étais pas consciente que ça pouvait exister, pour moi c'est un truc de fou que je dis ça. Donc je commence par lui expliquer, mais je lui dis pas tout. Et je lui ai dit surtout, je me sens pas bien. Elle me fait oui, je le vois, est-ce que tu veux qu'on continue? Je dis oui, je veux continuer. On continue, et là elle me fait non, mais ça va pas du tout. Je fais non, ça va pas, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui sont derrière moi, et je les vois pas, et je suis apeurée en fait. Elle me fait bon, ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais parce qu'elle, elle voit, elle a vraiment énormément de capacités. Elle me dit, ça fait un moment qu'ils sont là, je voulais pas t'alerter. Mais elle me dit, t'as bien des personnes chez toi.
Retrouvez la suite de l'histoire de Marion dès maintenant en écoutant l'épisode suivant. Ce podcast a été réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.